La coiffeuse aux accents de non-sens, de l'innocence. Toujours ce petit jeu de mots qui démarre cette émission étrange, née suite à l'initiative de Milana Volochenko, la cofondatrice du festival Blues en Aveyron et la créatrice du parfum Gentian Caviar de Braque. Posez vos affaires, détendez-vous, mettez-vous à l'aise devant la coiffeuse aux accents de nos sens, redoutablement installée au milieu de notre studio d'enregistrement. Elle est là pour vous guider dans votre vie, si vous voulez bien nous suivre. Son nom de l'émission ambiguë et étrange, la coiffeuse aux accents a pour but réveiller vos esprits, vous amener vers d'autres plateaux de conscience. Cachez vos peignes, nous ne sommes pas là pour être beaux, nous sommes ici pour être vrais. Je vous invite donc à vous décoiffer soigneusement et aller à l'essentiel, vers la magie de nos sens, olfactif, auditif, gustatif, visuel, tactile et pourquoi pas celui-ci. La magie de chaque accent de ce meuble démarre par le bout du nez. À chacun ses secrets, ses émotions et ses souvenirs que l'on respire, qu'on retient et qu'on place dans les tiroirs de notre âme. Le nez, c'est notre premier cerveau. Ouvrir le nez, c'est donner l'accès à tous nos sens, y compris le sixième, le fameux chemin vers la volupté intérieure inavouée. Cela arrive le plus souvent quand on ne s'y attend pas. On croise la devanture d'un fleuriste au printemps et soudain, une bouffée de jonquille nous ramène à notre enfance. Un certain jour de Pâques ou de Noël, si le fleuriste a astucieusement su intégrer quelques brins de sapin dans les jonquilles. Enfin, une gousse de vanille et on se souvient du baiser maternel, tout embaumé de ces fragrances inoubliables qui vont nous poursuivre ensuite toute notre vie. Seuls les miroirs de notre enfance, les armoires de nos grandes-mères, les porte-manteaux de nos grands-parents s'en souviennent. Aujourd'hui, nous ouvrirons les tiroirs de carnet de voyage où est placé un de mes livres préférés, Grenouille, destination Chine. La trousse d'urgence nous livrera une des vérités. Faut-il nous vacciner ou pas? Et le cahier de musique rendra hommage à Claude Bowling. Nos invités du jour, Fabrice Ullery, le musicien qui ne nécessite plus être présenté, Sandrine Gourbin, une comédienne venant de Paris et qui découvre Aveyron, Pierre Smirnov, l'Aveyronais d'adoption, et nous a déjà apporté le mois dernier son témoignage sur les traditions russes, et Jean-Charles Delisle, qui a donné plus de 25 ans de sa vie à l'industrie pharmaceutique en tant que médecin régional. Il nous apportera aujourd'hui la connaissance scientifique liée à la vaccination. On a dit destination Chine, tout d'abord via trousse d'urgence. CoronaVac, le vaccin contre le coronavirus élaboré par la Chine, se situe parmi les plus avancés. En attendant les premières annonces sur les essais cliniques de phase 3 en cours, les résultats de phase 1 et 2 viennent d'être publiés. CoronaVac se base sur une stratégie historique, le vaccin vivant atténué. Cela dit, c'est le même principe que les premiers vaccins de l'histoire qui consistent en injection d'une version affaiblie du SARS-CoV-2 pour stimuler le système immunitaire. Pasteur a utilisé cette méthode pour concevoir son vaccin contre la rage. Le vaccin BCG, qui protège contre la bactérie de la tuberculose, est également un vaccin vivant atténué. Jean-Charles Delisle va participer à notre débat et nous apportera la connaissance scientifique du problème. Faut-il vacciner? Faut-il en avoir peur? Vous avez 5 minutes pour porter votre témoignage précieux.
Très bien, merci beaucoup. Simplement déjà un petit rappel, hein, actuellement on a 4 vaccins dont les résultats ont été publiés dans des revues scientifiques de bonne qualité. 2 vaccins ARN messager, le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer, et 2 vaccins inactivés ou atténués, le vaccin AstraZeneca et le vaccin russe Sputnik. L'efficacité de ces vaccins est assez remarquable, on a une efficacité qui est de l'ordre de 95% pour les vaccins Moderna et Pfizer, une efficacité qui approche les 65% pour AstraZeneca et 90% pour le vaccin Sputnik. Donc globalement, on peut dire que l'efficacité de ces vaccins est excellente. En ce qui concerne la tolérance, on a quelques effets à très court terme. On sait qu'on a des cas possibles de réactions allergiques après la vaccination, mais ces cas sont quand même très rares. Les cas graves sont estimés à entre 1 et 2 cas à peu près pour 100 000 personnes vaccinées. Après, on a d'autres petits effets indésirables, un type de fatigue, de maux de tête, de courbature, mais ces effets sont vraiment bénins et transitoires.
Est-ce qu'on a déjà les statistiques d'efficacité à long terme ?
Alors, l'efficacité à long terme, c'est une bonne question. Donc, on sait maintenant, les premières personnes ont été vaccinées depuis plus de 6 mois. On sait que donc on a une immunité qui reste conservée après 6 mois de vaccination. Mais là, bien évidemment, pour la vaccination, l'efficacité à long terme, il va encore falloir attendre quelques mois et attendre que ces personnes aient plus d'un an après leur vaccination. Donc, je pense que d'ici la fin du printemps, les premières personnes vaccinées l'année dernière auront une année de vaccination et on pourra répondre dans un premier temps à la durée de vaccination sur un an. Et après, au fil du temps, on aura des données à 18 mois, à 2 ans. Mais bien évidemment, il faut que ces personnes vaccinées aient atteint ces 2 ans de vaccination pour répondre à cette question. Alors, c'est la même problématique pour les effets secondaires. On parle beaucoup du risque d'effets secondaires. Donc, on sait qu'à court terme, ils sont très légers et transitoires. Pour l'instant, à moyen terme, c'est-à-dire dans les 6 mois après la vaccination, on a des données qui sont quand même très rassurantes. On n'a pas de retour des centres de pharmacovigilance qui collectent ces données. Et par contre, après, pour ces données à un an ou plus, ben là aussi, il va falloir attendre. Mais en général, on peut quand même être très confiant sur cette tolérance à long terme des vaccins.
Et est-ce que vous-même, vous vous êtes vacciné dans le cadre de votre activité professionnelle, parce que vous êtes médecin régional et normalement, vous devez vous rendre dans les hôpitaux?
Alors, pour les médecins, je dirais les médecins pratiquants, ils sont en première ligne dans la vaccination, ainsi que les personnes âgées et les personnes à risque. En ce qui me concerne, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le feu vert pour être vacciné. Donc, j'attends mon tour avec impatience, mais je ne suis pas encore dans les personnes sélectionnées et qui peuvent bénéficier de la vaccination.
Vous vous vaccinez, vous faites pas peur alors ?
Absolument pas. Bah, je vais prendre l'exemple de mes parents qui ont 86 ans, que j'ai fait vacciner la semaine dernière, qui ont eu leur première injection. Et pour eux, c'est extrêmement important parce qu'il faut savoir que le bénéfice de cette vaccination est encore plus important quand on est une personne âgée. Il faut savoir que les personnes âgées de plus de 80 ans ont 5 fois plus de risques de décéder du Covid que les autres. Il en est de même pour les personnes obèses et pour les personnes qui sont hypertendues ou diabétiques, par exemple. Chez ces personnes à risque, entre guillemets, le bénéfice est vraiment indiscutable.
Jean-Charles, je veux remercier infiniment de nous dévoiler tous ces aspects incontestablement importants et précieux. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Bon après-midi.
Fabrice, je sais que vous défendez plutôt les méthodes de la médecine alternative, voire même la médecine de l'âme.
Je défends surtout la liberté de se soigner comme on veut et pour les médecins de prescrire les thérapies qu'ils jugent bonnes. C'est surtout la liberté que je défends. Cela dit, il ne faut pas opposer... même si elles s'opposent dans la philosophie, et les deux manières de se soigner. On a une manière, disons, qu'on appelle naturelle, c'est un mot un peu générique, de se soigner qui est le fruit de connaissances de plusieurs civilisations et de plusieurs millénaires, et dont la philosophie se base sur l'idée que la création nous donne à notre corps toutes les armes pour se défendre. Voilà, c'est faire confiance à la création, faire confiance en la nature, faire confiance en notre corps, en nos ressources. Mais pour cela, il faut des connaissances, connaître notre corps, il faut connaître ses ressources pour pouvoir développer ses défenses. En fait, c'est une manière de se soigner qui est basée sur le partage des connaissances auxquelles tout le monde a accès. Donc, c'est pas quelque chose d'élitiste, mais il faut que chacun fasse un effort pour aller vers ces connaissances et ces modes de thérapie naturelles. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a tout un mouvement depuis plusieurs années, notamment dans les classes moyennes occidentales, pour aller vers ces connaissances-là, qui fait, disons, un pendant, qui n'est pas forcément contradictoire d'ailleurs avec la médecine pasteurienne, qui est l'autre philosophie, qui est développée,
qui est plus scientifique
et développée depuis le 19e siècle, qui veut que l'homme augmenté, disons, fabrique par la chimie, etc., et par la science, fabrique d'autres moyens de thérapie. Donc il ne faut pas forcément les mettre en opposition, puisque chacun de nous, dans notre vie, nous avons eu à nous soigner de deux manières différentes. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de garder cette liberté.
Et alors, chacun son choix.
Exactement, et c'est ça qui est menacé aujourd'hui. C'est, à mon avis, menacé pour une raison qui est assez simple, c'est que nous avons aujourd'hui, dans nos sociétés très sophistiquées, notamment occidentales, peur de la mort. Et j'ai vu cette évolution de mon vivant, puisque en 1969, moi j'étais déjà là. Je suis né en 1962, comme ça les choses sont claires. J'étais déjà là et il y avait en 1969 la grippe de Hong Kong. Ce qu'on a appelé la grippe de Hong Kong, c'est une épidémie qui a fait 1 million de morts dans le monde et à l'époque on en a très peu parlé. Je me souviens d'une vague campagne de publicité à la télévision en 70-71, donc 1 ou 2 ans après, pour se vacciner contre la grippe. Donc on n'a même pas parlé de cette grippe de Hong Kong, on a simplement dit qu'il y avait une grippe qui avait été l'année dernière, ou il y a 2 ans, plus forte que les autres. Et il faut tout de même savoir qu'elle a fait 1 million de morts dans le monde, dont 31 000 en France. Voilà, alors elle est apparue en Chine, en 68, elle s'est diffusée à Hong Kong, et puis via les soldats américains qui étaient en guerre au Vietnam, elle s'est répandue aux États-Unis où elle a tué 50 000 personnes. Et voilà, donc elle a été qualifiée à l'époque de première pandémie moderne, mais disons, dans le domaine universitaire, les journalistes, les médias n'en ont pas parlé, il n'y a pas eu du tout la psychose d'aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas du tout le même rapport avec la mort. Mais pour vous donner un ordre d'idée, 10% des effectifs dans la région toulousaine, donc là on parle d'Occitanie, ont été touchés à la SNCF, et la maladie a même mis des trains à l'arrêt, il y a des trains qui ont été supprimés, des écoles qui ont fermé. Voilà, donc il n'y a pas eu de gros titres dans la presse. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une peur absolue de mourir, de ne pas assumer la mort, ce qui fait que ça va tellement loin qu'on a peur de vivre aussi. Voilà, je pourrais m'étendre là-dessus, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Je pense que vous avez compris à peu près
le contenu. Votre position, absolument. Ben, votre pertinence nous épatera toujours, monsieur Léry. Pierre, je crois que vous avez aussi une opinion.
Oh, en général, j'ai une
personnelle,
opinion sur beaucoup de
bien
choses.
Évidemment. Oui.
Je la partage pas toujours, mais bon, là, puisqu'on m'y invite, je vais le faire. Moi, j'ai pas réellement de compétences en médecine, en biologie, etc. Moi, je suis pour l'allopathie. L'allopathie, c'est ce qu'on appelle la médecine donc aujourd'hui moderne. C'est-à-dire que quelque chose a été prouvé scientifiquement. Scientifiquement, ça veut dire que c'est reproductible à l'infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donne un médicament, c'est quel résultat on va avoir. Voilà. Donc, moi, je suis pour l'allopathie. L'allopathie, ça veut pas dire c'est incompatible avec tout ce qu'on appelle les médecines douces ou médecine naturelle. Je pense que c'est tout à fait compatible. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de compléments. La médecine aujourd'hui moderne ne peut pas apporter systématiquement toutes les réponses. Elle en apporte beaucoup. Mais la mort continue à exister. Voilà. Moi, j'illustre ça. Je le disais juste avant de commencer l'émission. 1000 morts, c'est une tragédie. Un mort, c'est douloureux. Donc, je crois que la mort a toujours été compliquée pour l'être vivant, puisqu'il est fini. Voilà. Et à un moment ou à un autre, il s'éteint. Je crois qu'il faut, oui, laisser cette liberté aux gens. À certains moments, la médecine moderne aujourd'hui a besoin de compléments. Il n'y a pas de solution. Il faut laisser la possibilité aux gens de choisir leur accompagnement.
Et vous savez que cette liberté propose la médecine chinoise, notamment, qui a beaucoup de spiritualité d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Mais on continue sur le sujet qui concerne la Chine.
Est-ce que je peux mettre en parallèle deux phrases d'un médecin et d'un musicien?
Bien sûr.
Je voudrais mettre en parallèle une phrase qu'on prête à Pasteur. Il disait que c'est l'immunité qui faisait tout. Alors, je ne sais pas s'il a réellement dit cela, mais ça me fait penser à la phrase de Schoenberg, qui était dans la même démarche, en réalité, qui essayait de trouver un système musical qui ne repose pas sur les phénomènes acoustiques naturels, mais sur une démarche intellectuelle de l'homme. Et qui aurait dit sur son lit de mort: il y a encore beaucoup à dire en do majeur, c'est-à-dire il y a encore beaucoup à écrire et à trouver dans ce que la nature nous donne comme système musical. Voilà, parce qu'il avait travaillé sur la sortie de ce système musical, pensant qu'on avait tout dit dans les siècles précédents en musique, avec le système dit naturel. Quoi. Là aussi, le mot est un peu galvaudé. Mais je mets ces deux phrases en parallèle pour dire que ces deux hommes-là, qui étaient plutôt vers l'intellectuel, vers l'homme augmenté, vers la science, sur le tard, ont tout de même, comme vous le faites, Pierre, laissé sa part à la nature.
Vous avez toujours le dernier mot, de toute manière. On va passer aux choses un peu plus gaies. On parlera de Nouvel An chinois. Et cette année, il a eu lieu le 12 février. Et comment est-elle calculée la date du Nouvel An chinois ? Et le Nouvel An chinois, ou fête du printemps, est une tradition qui remonte à plus de 4000 ans. Cette année, c'est le 12 février qui marque le début de l'année du buffle, ou bœuf. La date varie selon les ans, car elle est calculée sur le calendrier lunaire. Le premier jour de l'année doit avoir lieu lors de la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver, avant la phase lunaire d'équinoxe du printemps. Et quelles sont les traditions liées au Nouvel An chinois ? Vous pouvez nous en dire quelque chose, Fabrice ?
Oui, alors si vous avez la chance de vous rendre dans un pays ou un quartier célébrant le Nouvel An chinois, parce que évidemment, on n'a pas tous la chance d'aller en Chine tous les jours.
Surtout aujourd'hui.
Voilà, mais bon, vous avez par exemple dans le 13e un quartier chinois à Paris. Vous n'oublierez jamais cette expérience unique. Alors, afin de fêter dignement l'événement du Nouvel An chinois, les maisons et les bâtiments sont ornés de décorations rouges. Et lors du dîner du réveillon, vous avez de multiples plats aux significations bien précises qui se succèdent. Et à la fin du repas, les convives s'échangent des enveloppes rouges. Alors, elles peuvent contenir de l'argent ou des messages de félicitations. Il n'y a pas de Nouvel An chinois sans pétards ni feux d'artifice. Alors, vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être vu les images dans les rues de la danse du dragon et du lion. Il faut savourer ces moments. Il faut pas hésiter. Voilà, si vous avez ça près de chez vous, il faut pas hésiter.
Merci. Et est-ce que vous savez quelque chose sur le signe lié au Nouvel An chinois, Pierre ?
Non, c'est ma spécialité.
Moi-même, je crois fort.
Je vais donner un peu de moi aussi, comme Fabrice. Moi
qui suis coq. En 2021, parce que ça change tous les ans.
Oui.
C'est à vous.
Mais moi qui suis du signe du coq chinois, je vais vous parler maintenant un peu du buffle. Et en plus, c'est le buffle de métal. Le buffle, donc, est un animal besogneux. C'est synonyme de force, d'insoumission. Et le buffle nous enjoint à prévoir nos actions afin de réaliser nos objectifs. Le métal évoque les règles, notre exigence, les décisions. On peut donc penser que pendant les mois qui s'annoncent, il faudra faire preuve d'ardeur, de détermination pour mener à terme les projets qui nous tiennent à cœur. Le succès peut être au bout du chemin, à condition de ne pas se replier sur soi-même.
Et ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est surtout justement d'être plié sur soi-même. Donc il faut faire attention. Si on souhaite continuer nos projets, il faut persévérer et ne pas se laisser abattre. Alors, est-ce que vous voulez bien qu'on parle des personnalités qui font la Chine d'aujourd'hui ? Je me permettrai d'évoquer Mao Zedong, qui est fondateur et ancien dirigeant de la République populaire de Chine. Il demeure le symbole de la nation chinoise plusieurs décennies après sa disparition. Je me permets d'évoquer la période de sa présence, 1893, c'est sa naissance, et 1976, c'est l'année de son décès. Pierre, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les personnalités qui font la Chine d'aujourd'hui ?
Actuellement, nous avons le président à vie, M. Xi, de son prénom Xi Jinping, qui est arrivé au pouvoir en 2013, qui a relancé la Chine dans des réformes, entre autres peut-être un peu plus de politique internationale, un assouplissement de la politique de l'enfant unique, une vaste campagne anti-corruption, puisqu'il a quand même supprimé aussi quelques-uns de ses collaborateurs proches. Et bon, comme d'habitude, il s'intéresse...
Je crois que le sujet vous plaît.
S'intéresse beaucoup aux minorités aussi dans son pays. Bon, on pourrait parler des Ouïghours et autres populations qui ont des difficultés à se développer, on va dire, politiquement correctes.
Fabrice, avez-vous des choses à rajouter sur les personnalités qui font de la Chine aujourd'hui ?
Oui, il y a aussi Li Ka-Ching, donc qui est connu en France pour avoir racheté les parfumeries Marionneau nationales. Et donc, lui, c'est un milliardaire de Hong Kong, qui est l'homme le plus riche d'Asie. Mais, vous savez, je reviens toujours à la musique. On a la personne de Madame Peng Liyuan, une soprano, donc qui était soprano au sein de l'armée, et qui est l'actuelle épouse du président Xi. Voilà, qui incarne l'élégance de la première dame à la chinoise.
Et bah pourquoi pas ne pas l'inviter à une des éditions du Festival Blues en Aveyron. Ça peut être une bonne idée, vous ne trouvez pas?
Oui, mais
un rigueur, petit duo.
La rigueur chinoise dans l'art, ça peut donner des choses.
Pierre, avez-vous des choses à rajouter?
Ah ben bah écoutez, on a quand même quelqu'un de très très célèbre ces dernières années, c'est Monsieur Ma, Yun de son prénom, qui se fait aussi appeler Jack Ma. C'est le fameux président propriétaire du groupe Alibaba, AliExpress et Ali, je ne sais plus comment il s'appelle, qui incarne la Russie chinoise comme beaucoup de milliardaires. La Chine compte de plus en plus de milliardaires, de plus en plus de millionnaires, hein, avec une petite particularité quand même de cette population, c'est qu'ils disparaissent régulièrement de l'horizon pendant quelques mois pour avoir une rééducation un peu
quand vous parlez de
politique.
Chine.
Il a refait surface.
Il a refait surface il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il a disparu simplement quelques mois. Donc
et alors pour revenir à la musique, on a également Lang Lang, qui est le pianiste chinois le plus primé. Et puis on a l'acteur Jackie Chan, évidemment, on ne présente plus, l'idole du kung-fu. On a une actrice aussi très connue qui s'appelle Zhang Ziyi, qui est l'héroïne de Tigre et Dragon, invitée d'honneur des Oscars, et membre du jury à Cannes aussi.
On voit que vous maîtrisez assez bien le sujet, hein, monsieur Oleri.
Ah, mais dès qu'on parle d'art.
Évidemment. Pierre, d'autres personnalités qui ont marqué l'histoire de Chine?
Alors, moi, je me souviens du réalisateur de quelques films chinois, entre autres Épouse et concubine, monsieur Zhang Yinou, qui a été primé à Cannes, à Venise. C'est un des Chinois les plus récompensés, le plus prolifique, je pense, à l'international. Il y a aussi Madame Yang Lan, hein, qui est propriétaire de médias en Chine, hein, qui est classée par le journal Forbes dans les 100 premières femmes les plus puissantes du monde. Elle fait aussi de la production télévision et elle a des émissions. Et on peut parler de sport aussi un peu, parce que pendant très longtemps, il y a eu un combat au niveau international sur les sols des gymnases. Hein. Puis on a eu quelques sportifs chinois qui sont sortis du lot, entre autres Mademoiselle Li, de son prénom Na, qui est une joueuse de tennis asiatique, qui a remporté plusieurs tournois du Grand Chelem et qui a été même deuxième mondiale à un moment dans sa vie.
Roland Garros en 2011.
Tout à fait. Merci Fabrice. C'est en 2011, ouais. Bien vu. Je vous remercie beaucoup. Et si je peux me permettre, je parlerai de Mo Yan, qui fut le premier écrivain chinois à recevoir le prix Nobel de la littérature. C'était en 2012, grâce à son roman Grenouille, qui dévoile la réalité de la période noire, ou plutôt même sanguine, la fameuse dictature de contrôle de naissance sous Mao. Au début des années 50, Mao Zedong a encouragé les femmes pour qu'elles aient beaucoup d'enfants et ainsi augmenter la force de travail du pays. Ainsi, la population chinoise a explosé en 20 ans, passant de 350 millions à 890 millions en 1973. La politique de l'enfant unique et deux garçons de préférence a été mise en place en Chine en 1979. Le décor du livre de Mao Yan est planté dans un village chinois où un certain têtard écrit une pièce de théâtre. Il s'inspire de la vie de sa tante, une gynécologue à la fois terrifiante et fascinante, qui œuvre pour la mise en place du planning familial sous Mao. Très vite, elle organise des campagnes d'avortement forcé. Cette politique d'époque, nous sommes à la fin des années 70, contribue à la naissance, entre guillemets, du monde sans femme, dévoilée avec une pertinence effarante dans ce roman. Et voici l'extrait le plus pertinent de cette réalité féroce qu'une comédienne, Sandrine Gourbin, nous propose à découvrir.
La tante était sur la rive. Elle avançait à grande enjambée. Elle se dirigeait vers l'est, longeant la digue. Petit Lion allait derrière elle, au petit trot, pour suivre son allure. Je vis que le bandage sur le front de la tante était taché de sang, que les muscles de son visage étaient figés, que son regard était perçant, que l'expression de son visage était résolue, voire féroce. Wang Le Foi, bien sûr, ne regardait pas ma tante. Ses yeux suivaient Petit Lion. Les commissures de ses lèvres ne cessaient de trembler. Il marmonnait quelque chose. J'avais un peu pitié de lui, mais j'étais surtout touchée car à l'époque, j'étais bien loin de comprendre comment l'amour d'un homme pour une femme peut lui mettre ainsi la tête à l'envers. Nous devions apprendre plus tard que la blessure de la tête de la tante avait été faite avec un bâton par un homme du village de Dongfeng, lieu célèbre avant la libération pour ses bandits et ses mœurs sauvages. Il avait déjà eu 3 filles et sa femme était enceinte du 4e enfant. Il se nommait Zhang. Son prénom était Le Point. Il avait des yeux de veau. Son origine sociale était bonne. C'était un solide gaillard auquel personne n'osait se frotter dans le village. Les autres femmes en âge de procréer et qui avaient eu 2 enfants, dont un garçon, avaient pour la plupart subi la ligature des trompes. Si les 2 enfants étaient des filles, nous a dit la tante, on prenait pleinement en considération la situation réelle des campagnes. On ne forçait pas à entreprendre l'opération, mais il fallait porter un stérilet. Si on avait eu 3 enfants, même si ce n'était que des filles, il fallait se faire ligaturer. Sur les 50 villages et plus relevant de la commune populaire, seule la femme de ce Zhang Le Point ne s'était pas exécutée. Ni pour l'opération, ni pour le stérilet. Pire encore, elle était de nouveau enceinte. La tante et sa suite, bravant la pluie torrentielle, avaient conduit leur bateau jusqu'à ce village dans l'intention de convaincre la femme de se rendre au centre de soins pour y subir un avortement. Alors qu'ils étaient encore en chemin, le secrétaire du comité du parti de la commune populaire, Qin Shan, avait téléphoné à Zhang Dan en or, le secrétaire de la cellule du parti du village en question, pour lui donner des consignes strictes, lui demandant de mobiliser toutes ses forces et de recourir à tous les moyens pour amener la femme de Zhang Le Point à la commune populaire pour y subir l'avortement. La tante a raconté que le mari gardait la porte, un bâton de sophora plein d'épines à la main. Il avait les yeux injectés de sang, criait comme un fou. Zhang Dan en or et les miliciens du village l'encerclaient à bonne distance, mais personne n'osait avancer. Les 3 petites filles étaient à genoux, à la porte. Entre morve et larmes, elles criaient à l'unisson des phrases qui semblaient préparées à l'avance. « Grand-oncle, grand-tante, tante, frère et sœur aînée, soyez bien intentionnés. Faites grâce à notre mère. Elle souffre de rhumatisme cardiaque. Si elle avorte, ce sera la mort pour elle. Et si elle meurt, nous serons orphelines de mère. » La tante a raconté que la mise en scène de Zhang Le Point pour gagner la sympathie avait bien fonctionné parmi les femmes qui formaient cercle. Elles étaient nombreuses à avoir versé une larme. Bien sûr, il y en avait tout autant qui ne s'étaient pas laissées convaincre. Celles qui avaient eu 2 enfants et portaient un stérilet. Celles qui en avaient eu 3 et avaient subi la ligature des trompes. Toutes celles-là étaient pleines de ressentiment de voir que la famille de Zhang Le Point en était à la 4e grossesse. La tante a dit qu'un bol d'eau doit être porté bien à l'horizontale. Si elle avait laissé naître ce 4e enfant chez les Zhang, toutes ces bonnes femmes l'auraient écorché vive. Si la famille Zhang avait réussi son coup, le drapeau rouge aurait été mis à terre. Mais cela n'aurait pas été le plus grave. Que le travail pour le contrôle des naissances ne puisse se faire. Voilà qui eût été dramatique.
Merci Sandrine, c'est effectivement troublant et c'est aussi pourquoi on vous a choisi pour porter ce témoignage, c'est que à ma connaissance, vous défendez la cause de la femme depuis un certain temps et d'ailleurs à travers une pièce du théâtre qui s'intitule « Le cœur de Louvre » et qui serait très probablement programmée lors de l'édition 2021 du Festival Blues en Aveyron. Dévoilez, s'il vous plaît, la face cachée de cette création. C'est aussi une création personnelle, n'est-ce pas ?
Tout à fait. C'est une écriture à deux, en fait. C'est moi et Kelly Beau, une autre comédienne chanteuse. Alors, c'est beaucoup plus ludique et léger que la pièce de Moyane qu'on vient de lire.
Ce qui est intéressant.
Exactement.
On est dans une réalité géographique totalement différente.
C'est ça. Et en fait, nous, on a voulu aborder l'histoire de l'émancipation des femmes qui a été faite de combats, parfois dans la douleur, et de grands combats pour tout le monde. Mais on a voulu justement rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont conduit ce combat et surtout passer le message
à tout le monde. En fait, on a voulu faire un spectacle pour rassembler. C'est pour ça qu'on a choisi de faire un spectacle musical qui retrace donc l'histoire de 1930 à aujourd'hui à travers l'évolution de la musique qui s'est libérée elle aussi. À travers... alors, on part du Charleston, après on passe par le rock, la soul, la techno, toute cette évolution. Et donc, dans l'équipe, on a fait appel à un compositeur qui s'appelle Maxime Marien, un arrangeur instrumental, Adi Alaoui, et on a développé... encore pour un plus grand public, une version concert et voilà pour d'autres formes de scènes.
Et c'est cette formule qui sera choisie.
Voilà, c'est ça,
pour avec l'édition du festival.
Fabrice Ullery au piano.
Et donc le sujet de contrôle de naissance nous propulse vers la liste de décès. Nous sommes dans la gaieté incontournable aujourd'hui, moins nombreux mais tout de même moins significatifs. Pour notre histoire future.
On avait parlé de la mort, c'est parler de la vie aussi.
Exactement. Donc, le roi est mort, vive le roi.
Et oui.
C'est bien français. 146 personnalités de toute nationalité nous ont quittés en 2020. Parmi les célébrités françaises qui nous ont quittés en décembre dernier, sont Robert Hossein, Pierre Cardin, Rick Cazaray, Claude Brasseur, Valérie Giscard d'Estaing, Caroline Sellier et Claude Bolling. Fabrice, il me semble qu'à un moment donné, votre carrière a croisé celle de Claude Bolling.
Oui, oui, tout à fait. Nous avons même enregistré un disque ensemble qui s'appelle Jeu Double. Jeu, J-E-U. Voilà, on voulait l'appeler Double Jeu, mais à l'époque, il y a une pièce de théâtre qui est sortie sous ce nom-là. Alors, on l'a appelé Jeu Double. Voilà, cet album est sorti chez Frémaux, est toujours au catalogue. Il a été enregistré en public, il est le fruit de plusieurs concerts que nous avions donnés à la salle Cortot dans les années 2004-2005 à 2008. Voilà, et notre duo s'était produit d'ailleurs à Decazeville au Festival 1998. Je crois que c'était la première scène hors Paris, hors les murs, que nous avons donnée avec Claude Bolling. Le premier concert que nous avons donné en duo avec Claude Bolling, hors Paris. Nous avions joué au Petit Journal Montparnasse la première fois ensemble en 1998 également, mais même là il y a un rapport avec l'Aveyron puisque le Petit Journal Montparnasse a été fondé et était tenu à l'époque par un Aveyronnais né à Saint-Côme-d'Olt qui s'appelle André Damon et que nous saluons. À l'occasion de ce duo est née une sympathie. Je reprends le mot de Claude Bolling. Un jour il m'a dit il y a de la sympathie entre nous. Et il avait la réputation d'être très ours. J'ai pris ça comme un compliment de très haute valeur. J'ai été donc très, très flatté, très honoré, très encouragé du fait qu'il me donne cette possibilité de jouer en duo de piano avec lui. On allait répéter chez lui à Garches, puisqu'il avait deux pianos chez lui, donc assez régulièrement. Et notre duo, finalement, a duré... jusqu'en 2012, donc 14 ans, pendant lesquels nous avons joué régulièrement. Et il est tombé malade en 2012, il s'est retiré petit à petit, puis il finissait par ne plus parler, il semblait ne plus reconnaître personne. Mais je me rappelle, dans une des dernières conversations que nous avons eues, que son visage s'éclairait quand je lui parlais d'Alain Delon, parce que c'est Alain Delon qui lui a permis de faire la musique de Borsalino, en le conseillant à Jacques Deray, le réalisateur. Et puis ensuite, il a fait, comme on le sait, la musique des Brigades du Tigre. Et j'aimerais vous parler de lui. On me pose souvent la question à la sortie de mes concerts. On me demande si les grands compositeurs comme Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaïkovski, qui sont ceux qui sont les plus joués finalement, les plus appréciés, et qui ont vécu au XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle. On me demande souvent si ces compositeurs-là ont leur équivalent dans les compositeurs contemporains, si les compositeurs contemporains laisseront quelque chose d'aussi durable que leur œuvre. Eh bien, en 2020, on a, et à juste titre, encensé Ennio Morricone lorsqu'il nous a quittés. On a pu entendre les musiques des Western Spaghetti et des grands polars que sa musique a illustrés. On a pu partager les vidéos sur Internet, acheter les DVD de ses concerts, entendre ses louanges de la part des médias, etc. Or, nous avons aussi perdu notre Ennio Morricone français. On pourrait même dire que nos cousins transalpins ont perdu leur Claude Bolling italien. Mais dans les médias français, niente, rien. Or, Claude Bolling, c'est non seulement des musiques de films, donc j'ai cité Borsalino, Les Brigades du Tigre, mais également Lucky Luke, tout aussi génial et célèbre que celle d'Ennio Morricone, mais aussi, Claude Bolling, c'est un grand pianiste et un grand chef d'orchestre qui, bien avant Ennio Morricone, a mis sa musique sur les planches, jouait en culotte courte en 1944, dès la Libération, donc avec les plus grands musiciens d'alors comme Duke Ellington. Et il a propulsé dans la chanson les plus grandes personnalités comme Brigitte Bardot en leur déroulant le tapis rouge de ses plus belles orchestrations. Alors je tenais à rétablir une juste raison pour notre Claude Bolling national, que l'histoire citera non seulement comme un compositeur remarquable de la deuxième moitié du XXe siècle, mais gardera comme, à mon avis, un créateur intemporel.
Formidable. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis nous avons dans notre studio Pierre Smirnoff qui a vu ce concert, ce fameux concert avec Fabrice Lery et Claude Bolling. C'est à vous de nous en parler un peu, de vos impressions à l'issue de ce concert.
Moi, je voudrais d'abord remercier, ce n'était pas du tout préparé, je voudrais remercier Fabrice parce que c'est vrai que je partage tout à fait son portrait de Claude Bolling, qui était pour moi quelqu'un de très très important musicalement. Il a cité quelques-uns des films. Il a oublié Le Magnifique, par exemple, aussi, ou Le Mur de l'Atlantique. Il y a eu plus de 200 musiques de films. C'est phénoménal. Et tous ces films qui ont été très populaires, qui s'accompagnaient de cette musique de Claude Bolling, qui était vraiment fantastique. Et c'est vrai qu'il a une carrière phénoménale, internationale.
Il ne pensait qu'à la musique, il était tout le temps en train de travailler.
Oui, oui, mais international. Il a été une productivité, il a été arrangeur. Et c'est vrai que on dit pas coup de gueule à la radio parce que ça se fait pas, donc je vais te donner un coup de bouche.
J'ai dit, dans notre émission, c'est permis. c'est fait pour ça.
Mais c'est vrai que moi, j'ai été très, 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 très triste de voir qu'on en parlait très, très peu. Vraiment, pour moi, c'était un musicien immense, un interprète immense. Il n'a pas eu le quart de la moitié, du tiers de la moitié de la racine carrée de ce qu'il aurait mérité. Voilà.
Et donc Pierre,
alors ce concert, c'était
le fameux concert de Decazeville.
Magnifique. Un Claude Bolling au top de sa forme. Alors moi je suis un fan de Ragtime, donc c'était un régal pour moi. Avec un Fabrice égal à lui-même. Comme je l'ai dit la première fois où je l'ai vu, je lui ai dit cette capacité à animer ça, à la faire vivre, à la faire bouger. Et un Claude Bolling qui a été pour moi, le voir, je l'avais jamais vu en vrai. Je l'avais écouté, je le connaissais par cœur, ses disques. Mais je ne l'avais jamais vu, voilà. Et pour moi, ça a été vraiment le voir dans l'Aveyron.
Le grand moment d'émotion.
Voilà, le voir dans l'Aveyron, vraiment, c'était un grand, grand moment. Un spectacle qui a été, je pense, admiré par tout le monde, vraiment. Oui. Quand on regarde à la sortie les gens, tout le monde était mais vraiment ravi. Ça aurait pu durer 2-3 heures de plus, ça ne nous aurait pas dérangé.
Voilà. Même peut-être quelques jours, quelques mois de plus.
Mais je vous remercie beaucoup. Et j'en profite pour vous livrer un secret de fabrique. C'est que notre duo était une alchimie en réalité. Ces duos entre, disons, deux grosses personnalités sont tout à fait improbables. En général, ce sont des rencontres éphémères, assez médiatiques, assez artificielles, qui ne donnent rien sur le long terme. Ça n'a pas été le cas avec nous. Ça a donné quelque chose de durable, justement parce que cette improbabilité était contournée par une alchimie inégalitaire, on va dire. C'est-à-dire que, pour vous livrer notre secret de fabrique, la convention non dite, implicite, entre nous deux, sur quoi nous avons fonctionné. Claude avait déjà accompli son œuvre quand je l'ai rencontré. Il n'avait plus rien à prouver. Et moi, j'étais son fan, il était mon idole. Et lorsque j'étais même préadolescent, que je le voyais à la télé, je n'aurais jamais deviné, juré que je jouerais un jour avec lui. Donc il y avait cette espèce d'admiration comme un élève pour son maître, Mais en réalité, lui, il avait aussi beaucoup d'admiration pour moi parce que j'étais pour lui la jeune génération. Je faisais des choses qu'il ne faisait pas, réciproquement. Donc il y avait non seulement une complémentarité, mais aussi une admiration. Notre formule alchimique, c'était finalement que je me cale sur lui. Dans les grandes lignes, je connaissais ses disques, je lui laissais faire ses versions telles qu'il les faisait en solo ou en trio ou en grand orchestre, et je rajoutais ma partie. Et c'est comme ça que ça fonctionnait.
Et c'est comme ça que nous allons le découvrir à travers l'extrait du West Side Boogie.
Qui est un contre-exemple de ce que je viens de dire. parce que c'est une composition personnelle, en hommage à Bernstein et la musique de West Side Story. Donc là-dessus, c'est plutôt Claude qui m'a suivi.
Le disque même.
Mais tout en respectant cette alchimie, parce que je lui ai écrit des choses qui étaient dans sa veine, parce que je connaissais bien son œuvre et je savais ce qui lui plaisait.
En fait, vous l'aviez bien décrit, que vous vous adaptiez à son rythme de jeu.
On peut
et
dire
à
que lui,
style,
dans notre duo, c'était le plat et moi, j'étais l'assaisonnement. Si vous voulez, il était le bâtiment, il était l'architecture et moi, j'étais la décoration.
Ben, je vous remercie beaucoup, Fabrice.
C'est exactement comme ça que j'ai vécu, moi.
Très bien.
Mais c'est vrai que, alors, j'ai trouvé qu'il y avait une complémentarité, une complicité, une écoute réciproque dans le concert. Et je m'en souviens encore. Voilà, moi, vraiment, c'était vraiment très complémentaire. Et merci pour ce bon moment, comme on dit.
Merci pour ce bon moment d'autrefois et merci pour ce bon moment d'aujourd'hui. Donc, on va finir en beauté avec l'extrait qu'on vient d'évoquer du West Side Boogie, composé par Fabrice Ullery et que vous pouvez retrouver sur le disque Jeu double, allant sur le blog du Canard du Pianiste, la rubrique discographie. Merci à tous et à la prochaine! Thank you.